Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Eddie.
Il a 33 ans. Il se réveille en sursaut, suffoquant. Son épaisse chevelure noire est collée par la sueur. Il cligne fortement des yeux afin de percer l'obscurité, essayant désespérément de se concentrer sur son bras, ses jointures, n'importe quoi, afin de s'assurer qu'il est bien dans l'appartement au-dessus de la boulangerie et non là-bas, en pleine guerre, dans le village encerclé par les flammes. Ce rêve s'arrêtera-t-il jamais? Il va bientôt être 4 heures du matin. Inutile de se rendormir. Eddie attend que sa respiration se calme, puis il roule doucement hors du lit en essayant de ne pas réveiller sa femme. Par habitude, c'est sa jambe droite qu'il pose d'abord par terre afin d'écarter l'inévitable raideur de la gauche. Eddie entame chacune de ses matinées de la même manière. Un pas suivi d'un boitillement. Dans la salle de bain, il remarque ses yeux injectés de sang et asperge son visage d'eau. Il fait toujours ce même rêve. Il est aux Philippines, lors de sa dernière nuit là-bas, et il erre au milieu des flammes. Les cabanes du village sont englouties par le feu et il entend un piaulement constant et aigu. Quelque chose d'invisible heurte sa jambe. Il tape dessus, mais la rate, puis il tape à nouveau et la rate à nouveau. Les flammes s'intensifient, rugissant comme des moteurs, et Smithy apparaît qui hurle après Eddie « Viens, viens !» Eddie essaie de parler, mais quand il ouvre la bouche, c'est un cri perçant qui émerge de sa gorge. Puis, quelque chose agrippe sa jambe et l'entraîne sous la terre boueuse. C'est à ce moment précis qu'il se réveille à chaque fois, en sueur, pantelant. C'est toujours pareil. Le pire n'est pas le manque de sommeil, c'est l'atmosphère obscure dans laquelle le rêve l'enveloppe, une pellicule grise qui assombrit ensuite sa journée. Même ses meilleurs moments en sont recouverts, tout comme une épaisse couche de glace peut emprisonner des trous faits par des piquets. Il s'habille calmement et descend les escaliers. Son taxi attend au coin de la rue à sa place habituelle et Eddie enlève l'humidité sur le pare-brise. Il ne parle jamais de l'obscurité à Marguerite qui caresse ses cheveux en lui demandant « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il préfère lui répondre « Rien, je suis juste crevé. » Et n'épilogue pas. Comment expliquer une pareille tristesse à Marguerite qui est censée le rendre heureux? La vérité, c'est qu'il ne peut se l'expliquer lui-même. Tout ce qu'il sait, c'est que quelque chose s'est mis en travers de son chemin, lui obstruant la route jusqu'à ce que, avec le temps, il abandonne. Abandonne les études d'ingénierie mécanique ainsi que les projets de voyage. Après quoi, sa vie s'est déroulée sans lui, qui s'était simplement contenté de s'asseoir dedans. Ce soir-là, quand Eddie rentre du travail, il arrête son taxi au coin et monte lentement les escaliers. Il entend de la musique sortir de son appartement, une chanson familière. « Tu t'es débrouillé pour que je t'aime ? Je ne voulais pas, je ne voulais pas. » Il ouvre la porte et voit un gâteau sur la table, ainsi qu'un petit sachet blanc attaché par un ruban. « Chérie, c'est toi ?» lui crie Marguerite depuis la chambre. Il ouvre le sachet blanc qui contient des friandises de la foire. « Joyeux anniversaire !» Marguerite apparaît en chantant de sa douce voix. Elle est splendide dans cette robe imprimée qui est la préférée d'Eddie, les cheveux bien coiffés, les lèvres maquillées. Eddie sent le besoin d'inspirer, comme s'il ne méritait pas un tel instant. Il lutte contre l'humeur sombre qui l'habite. « Laisse-moi, lui dit-il, laisse-moi apprécier ce moment comme il faut. » Marguerite termine la chanson et l'embrasse sur les lèvres. « On se bagarre pour les friandises ?» lui murmure-t-elle. Il s'approche pour l'embrasser à nouveau. On frappe à la porte. « Eddie, tu es là, Eddie !» C'est M. Nathanson, le boulanger, qui habite l'appartement du rez-de-chaussée derrière le magasin. Il a le téléphone. Quand Eddie ouvre la porte, son voisin est debout sur le seuil en robe de chambre. Il paraît soucieux. « Eddie, dit-il, descends vite. Il y a un coup de fil pour toi. Je crois qu'il est arrivé quelque chose à ton père. »«
Ruby, c'est moi. »
Soudain, Eddie comprit tout. Surtout pourquoi cette femme lui semblait familière. Il l'avait vue en photo, effectivement, quelque part au fond de son atelier, parmi les vieux manuels et la paperasse des anciens propriétaires de la foire. «
L'ancienne entrée, » dit Eddie. Elle acquiesça toute heureuse. L'ancienne entrée de Ruby Pier avait été un événement marquant. Une arche géante construite sur le modèle d'un monument français avec des colonnes cannelées et un dôme cintré au sommet.
juste en dessous de ce dôme sous lequel passaient tous les clients, était peint un beau visage de femme. Cette femme-ci, Ruby.
Mais tout ça a été détruit il y a longtemps, dit Eddie, à cause d'un grand...
Il s'arrêta. Incendie, compléta la vieille dame.
Oui,
un incendie gigantesque. Son menton s'affaissa. Il vit ses yeux se baisser derrière ses lunettes, comme si elle lisait quelque chose posé sur ses genoux.
C'était le jour de la fête nationale.
Émile adorait les jours fériés. C'est bon pour les affaires, disait-il.
Si ce jour-là marchait bien, le reste de la saison avait de bonnes chances de marcher aussi.
Aussi, Émile commanda-t-il des feux d'artifice et fit-il venir une fanfare. Il embaucha même des extras, des hommes à tout faire pour l'essentiel, uniquement pour ce week-end-là. Mais la veille au soir, il faisait très chaud, même après le coucher du soleil, et quelques-uns de ces hommes choisirent de dormir dehors, derrière les ateliers où ils allumèrent un feu dans un bidon métallique pour faire cuire leur nourriture. Au fur et à mesure que la nuit avançait, ils burent et festoyèrent. Puis ils firent main basse sur les plus petits des feux d'artifice qu'ils entreprirent d'allumer. Le vent soufflait, les étincelles volaient. En ce temps-là, tout était construit en lattes recouvertes de goudron. Elle hocha la tête. Après quoi, tout est allé très vite. Le feu a gagné l'allée centrale et les baraques à friture, puis les cages des animaux. Les hommes à tout faire ont pris la fuite. Le temps qu'on vienne nous réveiller et Ruby Pier était la proie des flammes. De notre fenêtre, nous avons vu l'horrible flamboiement orange. Puis, nous avons entendu les sabots des chevaux et les carrioles des pompiers. Les rues grouillaient de monde. Je suppliais Émile de ne pas y aller, mais en vain. Évidemment qu'il irait. Il voulut se rendre jusqu'à l'incendie déchaîné et essayer de sauver le fruit de toutes ces années de labeur. Là, de colère et de peur, il perdit la tête. Et quand l'entrée prit feu, l'entrée qui arborait mon nom et mon portrait, tous ses repères l'abandonnèrent. Il était occupé à jeter des seaux d'eau quand une colonne s'effondra sur lui. Elle joignit les doigts comme pour une prière et les porta à ses lèvres. En l'espace d'une nuit, nos vies basculèrent. Fonceur comme il était, Émile avait pris le minimum d'assurance. Il perdit sa fortune. Le cadeau merveilleux qu'il m'avait fait était parti en fumée. En désespoir de cause, il vendit le terrain calciné à un homme d'affaires de Pennsylvanie pour une bouchée de pain. Cet homme conserva le nom de Ruby Pier et, avec le temps, rouvrit la foire. Mais ce n'était plus la nôtre. L'esprit d'Émile avait été aussi secoué que son corps. Il lui fallut 3 ans pour pouvoir remarcher seul. Nous déménageâmes à l'extérieur de la ville dans un petit appartement où nous vécûmes modestement, moi à soigner mon mari souffrant et à nourrir silencieusement un seul et unique souhait. Elle s'arrêta.
Lequel ? Demanda Eddie.
Qu'il n'ait jamais construit Ruby Pier.
La vieille dame demeura assise et se tut. Eddie contemplait l'immensité de ce ciel de jade. Il pensait au nombre de fois où lui-même avait exprimé le même souhait, que la personne qui avait fait construire Ruby Pier ait investi son argent ailleurs.
« Je suis désolé pour votre mari, » balbutia Eddie, qui ne savait pas trop quoi dire d'autre.
La vieille dame sourit.
« Merci, mon cher. Mais nous avons vécu bien longtemps encore après cet incendie. Nous avons élevé 3 enfants. Émile n'était pas en bonne santé, sans arrêt à l'hôpital. Il m'a laissé veuve à 50 ans. Vous voyez ce visage, ces rides ? »
Elle releva la tête.
« Je les ai gagnés une à une. » Eddie fronça les sourcils.
« Je ne comprends pas. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré ? Vous êtes venu à la foire ? » ?»«
Non, je n'ai jamais souhaité la revoir. Mes enfants y sont allés, ainsi que leurs enfants et les enfants de leurs enfants, mais moi pas. L'océan n'était vraiment plus l'idée que je me faisais du paradis. J'ai préféré revenir dans ce petit restaurant où ma vie avait été si simple à l'époque où Émile me faisait la cour. »
Eddie se frotta les tempes. Quand il respirait, il sortait de la vapeur.
« Mais alors pourquoi moi je suis là ? » demanda-t-il. « Je veux dire, votre histoire, l'incendie, tout ça a eu lieu avant ma naissance. »
« Les choses qui ont lieu avant notre naissance nous affectent quand même, et les gens qui étaient là avant nous affectent également. »
Nous circulons tous les jours en des endroits qui n'auraient jamais existé sans ceux qui nous ont précédés. Là où nous travaillons, où nous passons tant de temps, nous pensons souvent que ces lieux sont nés avec notre arrivée, alors que c'est faux, évidemment. » Elle tapotait l'extrémité de ses doigts, une main contre l'autre. « Sans Émile, je n'aurais pas eu de mari. Sans notre mariage, il n'y aurait pas eu de fête foraine. Et sans cette fête foraine, vous n'auriez pas fini par y travailler. » Eddie se gratta la tête. « Alors, vous êtes ici pour me parler de mon travail ?»« Mais non, mon cher, » lui répondit Ruby d'une voix radoucie. « Je suis ici pour vous expliquer la mort de votre père. » C'était la mère d'Eddie au bout du fil. Son père avait eu un malaise cet après-midi à l'extrémité est de la promenade, près de la grande fusée. Il avait une fièvre terrible. « Eddie, j'ai peur, » lui avait-elle dit, la voix brisée. Elle lui parla d'un soir, en début de semaine, où son père était entré au crépuscule, trempé jusqu'aux os, les vêtements pleins de sable. Il lui manquait une chaussure. Selon elle, il sentait les embruns. Eddie pariait qu'il devait sentir l'alcool aussi. « Il toussait, » lui expliqua sa mère. Puis, ça a empiré. On aurait dû appeler un docteur immédiatement. Elle passait d'un sujet à l'autre. Il est allé travailler ce jour-là alors qu'il était malade, avec sa ceinture garnie d'outils, comme d'habitude, mais en rentrant, il a refusé de manger. Une fois au lit, il a été pris d'une toux sèche et sifflante. Et il a tellement sué qu'il a trempé son tricot de peau. Le lendemain, c'était encore pire. Et maintenant, cet après-midi, il a eu un malaise. Le docteur a dit que c'était une pneumonie. « Oh, j'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu aurais bien pu faire ?» lui demanda Eddie. Il était furieux de l'entendre culpabiliser. C'était la faute de son ivrogne de père. À l'autre bout de la ligne, il l'entendit pleurer. Le père d'Eddie disait souvent qu'il avait passé tellement d'années au bord de l'océan que l'eau de mer, il l'avait carrément respirée. Maintenant, loin de ce même océan, confiné dans un lit d'hôpital, son corps commençait à se dessécher comme un poisson échoué. S'ajoutèrent des complications, dont une congestion pulmonaire. Son état passa de satisfaisant à stable, puis de stable à grave, et ses amis passèrent de « il sera chez lui demain » à « il sera chez lui dans une semaine ». Pendant l'arrêt maladie de son père, Eddie leur fila un coup de main à la foire. Travaillant le soir après ses courses comme taxi, graissant les rails, vérifiant les patins des freins, testant les leviers et réparant même les pièces cassées dans l'atelier. Histoire que son père ne perde pas son travail. Pour le remercier de ses efforts, les propriétaires lui payèrent la moitié du salaire de ce dernier, argent qu'il donna à sa mère qui allait chaque jour à l'hôpital et y passait la plupart de ses nuits, tandis que Marguerite et lui s'occupaient du ménage et des courses. Quand Eddie était jeune et qu'il se plaignait ou disait en avoir assez de la foire, son père le rembarrait. « Quoi, c'est pas assez bon pour toi, peut-être ?» Plus tard, quand il avait suggéré à Eddie d'y prendre un emploi après le lycée, Eddie en avait presque ri et son père avait répété « Quoi, c'est pas assez bon pour toi, peut-être ?» Avant qu'Eddie ne parte à la guerre, quand il avait parlé d'épouser Marguerite et de devenir ingénieur mécanicien, son père lui avait dit « Et la foire ?» C'est pas assez bon pour toi, peut-être? Et maintenant, le voici qui effectuait pourtant dans Ruby Pier exactement le même travail que son père. Sur l'insistance de sa mère, Eddie finit par lui rendre visite à l'hôpital un soir. Il entra dans la chambre à pas feutré. Son père, qui, des années durant, avait refusé de lui parler, n'en avait plus la force à présent. Il souleva ses paupières lourdes et regarda son fils. Après avoir péniblement cherché une phrase à dire, Eddie fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Il tendit les mains et montra à son père ses doigts aux extrémités souillées de cambouis. « Te crève pas, mon gars, » lui avaient dit les autres protégés à l'entretien. « Ton vieux s'en tirera, c'est un fameux gaillard. » Il est rare que les parents lâchent leurs enfants. Du coup, ce sont les enfants qui les lâchent. Ils avancent, ils s'éloignent. Les moments qui leur servaient de repère, l'approbation d'une mère ou d'un père, sont remplacés par leur propre réussite. Ce n'est que beaucoup plus tard, quand la peau pendouille et que le cœur s'affaiblit, que les enfants comprennent, que leurs histoires et toutes leurs réussites s'ajoutent à celles de leurs parents, pierre après pierre, dans les eaux de la vie. Quand il apprit que son père était mort, qu'il était « parti », avait dit une infirmière, comme s'il était sorti chercher du lait, Eddie éprouva une colère des plus vaines, de celles qui vous font tourner en rond, comme enfermés en cage. Ainsi que beaucoup de fils d'ouvriers, Eddie avait imaginé pour son père une mort héroïque qui compenserait une vie des plus ordinaires. Or, il n'y avait rien d'héroïque à sombrer dans un semi-coma éthylique sur une plage. Le lendemain, il se rendit chez ses parents, entra dans leur chambre et ouvrit tous les tiroirs comme pour y chercher un morceau de la vie de son père. Il farfouilla parmi pièces de monnaie, épingles à cravate, petites bouteilles de calvados, élastiques, factures d'électricité, stylos, sans oublier un briquet décoré d'une sirène. Pour finir, il trouva un paquet de cartes qu'il glissa dans sa poche. L'enterrement fut simple et bref. Au cours des semaines suivantes, la mère d'Eddie vécut dans une sorte d'hébétude. Elle parlait à son mari comme s'il était toujours là. Elle lui hurlait de fermer la radio. Elle cuisinait pour deux. Elle tapotait les oreillers des deux côtés du lit, alors qu'elle n'avait dormi que d'un seul. Un soir, Eddie la vit empiler des assiettes sur le plan de travail. « Je vais t'aider, lui dit-il. « Non, ton père les rangera, lui répondit-elle. Eddie posa la main sur son épaule. « Maman, papa est parti, lui fit-il, doucement remarquer. « Où ça ?» Le lendemain, Eddie alla voir son patron au dispatching des taxis et lui annonça qu'il s'arrêtait. Deux semaines plus tard, Marguerite et lui emménageaient dans l'immeuble où Eddie avait grandi sur Beechwood Avenue, l'appartement 6B, où le couloir était étroit et la fenêtre de la cuisine donnait sur le carrousel et sur la foire. Eddie y avait accepté un emploi lui permettant de garder un œil sur sa mère, un emploi pour lequel il s'était entraîné été après été, préposé à l'entretien sur Ruby Pier. Que ce soit à sa femme, à sa mère ou à quiconque, Eddie ne la voit jamais, mais il maudissait son père d'être mort et de l'avoir piégé dans cette vie même à laquelle il avait tenté d'échapper. Une vie qui, et il entendait encore son père qui devait en rire dans sa tombe, une vie qui était apparemment bien assez bonne pour lui à présent.